Je vous invite à ouvrir à nouveau les deux textes que nous avions abordés la semaine dernière afin de continuer sur le symbole du fleuve. On va commencer par Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Notre deuxième lecture, une lecture parallèle, se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47. Verset 1er. Ézéchiel 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais pas traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Mais sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits n'auront pas de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles serviront de remède. Amen. Nous sommes ensemble en train d'étudier depuis quelques dimanches les différents symboles de la personne du Saint-Esprit. Et en étudiant ces symboles, nous comprenons, nous en retirons des enseignements concrets, pratiques, pour nos vies. Et alors que nous avions terminé la symbolique de l'huile, la semaine dernière, nous sommes arrivés sur ces textes à la symbolique du fleuve. En Jean 7, que nous avons lu ensemble, nous voyons que Jésus associe clairement le fleuve au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au fleuve. Des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur par le moyen de la foi. Jésus dit cela de l'Esprit. Tous ces points nous parlent de qualité de vie et j'aimerais ce matin vous parler encore, avec ces textes, vous parler de qualité de vie. Jésus a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. » Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en en abondance. Si je ne vis pas ma vie chrétienne comme ça, il faut que je me pose de vraies questions. Parce que le plan, la volonté de Dieu, c'est une qualité de vie. Lorsque Jésus, on l'a lu en Jean 7, prononce ces paroles extraordinaires, c'est un moment très solennel où le souverain sacrificateur verse de l'eau avec une cruche dans un bassin et il fait cela en souvenir, c'est un rappel, c'est une commémoration de l'eau qui avait coulé du rocher. C'est une parole que Jésus va prononcer à la fête des tabernacles et tous les événements qui s'étaient passés dans le désert étaient commémorés par différentes fêtes. Et celle-là, cette fête, ce moment très solennel où il y avait un silence total à ce moment-là, lorsque le souverain sacrificateur versait l'eau avec une cruche dans le bassin pour se souvenir de l'eau qui avait coulé du rocher d'Horeb, on était là et on était silencieux, on était religieusement en train de regarder, de se souvenir d'un miracle passé, comme parfois, pardon, des milliers de chrétiens se souviennent de certains miracles passés religieusement. Et alors que tout le monde est là religieusement dans un silence total, en train de se souvenir d'un événement qui a plusieurs centaines d'années, dans le silence total, Jésus se lève et il dit, si quelqu'un a soif, il peut venir venez à moi, je lui donnerai de l'eau. Jésus a dit,
à moi, qu'il boive l'eau que je vais lui donner, jaillira jusque dans la vie éternelle. S'il croit en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein jusque dans l'éternité. C'est la promesse pour que vous viviez une vie digne de ce nom.
Et tout le monde a dû faire, qui c'est celui-là? C'est Jésus. Il a un message radicalement différent. Il n'est pas un homme religieux. Il n'est pas une religion, il n'est pas un concept, il n'est pas une idéologie, il n'est pas une série de bons principes, même s'il y a des principes à respecter dans la parole de Dieu. Il n'est pas seulement une loi, même s'il l'a accomplie. Il est le Dieu de la vie et il communique cette vie par le moyen de l'Esprit pour tous ceux qui croient, par le moyen de la foi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jésus ici ne vient pas nous promettre une eau terrestre, une eau humaine ou matérielle, bien qu'il puisse tout par sa grâce, il pourvoit tout, bien sûr. Jésus promet une qualité de vie, une dimension de vie, un épanouissement, une vie spirituelle, une vie intérieure, de son être intérieur, une vie qui va être plus puissante, plus abondante, plus épanouissante que tout ce que j'avais pu connaître par le passé. Alors, il y a évidemment tous ces symboles de l'Ancien Testament, mais ce n'était que l'ombre des choses à venir. Il y avait un temple matériel, mais aujourd'hui le temple il est spirituel, c'est vous, c'est moi. Il y avait certes une nourriture qui était tombée du ciel dans le désert, mais aujourd'hui Jésus dit, je suis le pain de vie, c'est moi qui nourris ton âme, c'est ma présence, c'est moi qui te rassasie, c'est ce que je suis, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je te donne, même si je peux tout te donner, c'est ce que je suis, c'est ça qui rassasie ton âme et qui fait que tu es épanoui, que tu es bien, tu es rassasié. Oui, il y a eu de l'eau dans le désert. Oui, il y a eu des miracles dans le passé. Mais Jésus dit, maintenant, je vais même pas te donner de l'eau. Je vais installer la source en toi. Je peux pas faire plus, je peux pas faire mieux. Vous voulez quoi de mieux? Que je vous file une bouteille d'eau ou que je vous mette une source en vous? Et Jésus dit, mais arrêtez de vivre avec des concepts passés parce que il y a dans ma vie, dans mon esprit, dans ma présence, une dimension que vous ne soupçonnez pas encore. Et arrêtez de vivre avec des gouttes, arrêtez de vivre avec des bouteilles d'eau, même si c'est de l'évian ou je sais pas quoi. Mais le mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'avoir la source à l'intérieur de son être? Et de vivre en permanence de cette vie, de ce fleuve qui coule de mon être intérieur. Il va produire en moi une qualité de vie, et cette qualité de vie va être proportionnelle à la qualité de ma relation avec le Saint-Esprit, avec le fleuve. Plus je suis en communion avec le Saint-Esprit, plus la qualité de vie de Dieu est en moi. Plus je m'abandonne au fleuve, plus il va devenir puissant et rafraîchissant en moi. De son sein, la source est à l'intérieur. La vie, elle est en vous. On peut pas faire mieux. Si elle se manifeste pas, c'est que vous l'avez obstruée, c'est que vous l'avez bloquée. Vous avez peut-être mis une pierre, vous avez peut-être mis une pierre d'incrédulité, une pierre de suffisance, une pierre de négligence. Oh, j'ai pas le temps. Une pierre de suffisance, oh, c'est peut-être pas si important. Vous avez peut-être mis une pierre d'indifférence. Vous avez peut-être mis des pierres avec votre langue. Vous avez peut-être méprisé, critiqué. Vous avez attristé l'esprit. La source, elle est là. L'eau, elle est là. Mais on a mis tellement de pierres dessus que l'eau, elle ne peut plus jaillir. Il n'y a que quelques gouttes. Et c'est à nous d'enlever les pierres par le moyen de la repentance, par le moyen de la confession, par le moyen du retour à Dieu. Mais la source, elle est là. Combien, malheureusement, de gens ont du mal à comprendre que la vie éternelle, tous les textes dans lesquels Jésus parle de vie éternelle, la Zoé, la vie, la Zoé de Dieu, ça ne désigne pas seulement une quantité de vie. C'est pas seulement une vie qui durera pour l'éternité. C'est pas, oui, mais c'est pas seulement une vie qui n'aura pas de fin. La Zoé désigne aussi une qualité de vie. Pas une quantité de vie, mais une qualité de vie. La vie éternelle en moi, c'est une qualité de vie présente, pas à venir, pas dans le ciel, mais présente ici et maintenant en moi. C'est ça la qualité de vie que Jésus promet, cette vie présente, la vie éternelle. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'être un jour au ciel pour vivre la vie de Dieu. Parce qu'en attendant d'aller au ciel, Dieu, dans sa grâce, a décidé que vous pourriez vivre la vie du ciel dans votre cœur. En attendant d'aller au ciel, le Saint-Esprit me fait vivre le ciel dans mon cœur. Amen. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je sais, il y a des gens, ils préféreraient avoir un petit miracle, 200 balles sur leur compte en banque, une personne en moins qui leur pose des problèmes, moins de ceci, plus de cela, du matériel, du ceci, de l'humain, du terrestre. Puis un jour, Jésus dit, oh, stop! Des miracles, j'en ai fait pendant des milliers d'années, j'en ai même fait dans toute votre vie. Maintenant, il faudrait qu'on vive, vous et moi, dans une autre dimension. Je ne te donnerai pas de miracles supplémentaires. Je veux dire ça pour des gens, j'insiste. Non, il n'y aura pas d'autres miracles. Le fleuve est un miracle. Il n'y aura pas d'autres miracles. Non, le Seigneur te donnera pas une bouteille d'eau supplémentaire. Il faut que tu trouves le fleuve. Et c'est ça ton salut. Amen. De son sein, le ciel vit déjà dans mon cœur. Et toute la Bible, je l'avais déjà dit, me montre que c'est pas un plus. Vivre une communion authentique avec l'Esprit de Dieu, c'est pas un plus. C'est pas un gadget. C'est pas une option. C'est la vie chrétienne normale. En être rempli de l'Esprit, lui totalement en moi, et moi totalement en lui. Voilà le chemin de la plénitude, voilà ce que Dieu veut. Voilà encore un bienfait du fleuve, une qualité de vie présente. L'eau, c'est la vie. Le fleuve de l'Esprit va communiquer à tous ceux qui le laissent couler, à tous ceux qui se plongent en lui, à tous ceux. Jésus a été très clair. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un, c'est simple, hein, pour n'importe qui, quiconque, si quelqu'un a soif, je vais vous dire un truc par expérience. Je sais vraiment ce que c'est de ne pas avoir soif. Mais quand je vous dis pas soif, mais alors pas soif, quand je vous dis j'en ai pas envie, j'en ai limite rien à cirer, pardonnez-moi l'expression, j'ai vécu 18 ans de pseudo-vie chrétienne comme ça. Quand je vous dis « pas soif », « pas soif », mais le Seigneur, il est merveilleux, parce qu'il a inventé le désert. Vous savez ce que c'est le désert? C'est un activateur de soif pour les mulets comme moi. Et au bout de 18 ans de désert, quand j'étais en train de mourir dans mon désert et que je sentais tellement de sécheresse intérieure, je me ressentais tellement sec, tellement stérile, tellement improductif, tellement fatigué de cette pseudo-vie chrétienne que j'étais en train de mourir dans mon désert. J'avais l'impression que j'avais du sable dans les oreilles, dans la gorge. Je me sentais tellement sec intérieurement, j'étais sec de partout. Même mon corps, comme dit David dans le psaume 63, même mon corps finissait par soupirer après cette eau dans cette terre desséchée dans laquelle je me trouvais, spirituellement parlant. Quand on n'a pas soif, le Seigneur sait, au travers des circonstances, activer notre soif et nous montrer que nous sommes bien insouciants, bien négligents, bien imprudents, bien inconsidérés d'avoir négligé le fleuve de l'Esprit. Je ferme la parenthèse. Si quelqu'un a soif, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47 que nous avons lu, il y a ce verset 9 qui est extraordinaire, qui va nous parler aussi de la vie que l'Esprit va pouvoir prodiguer. Verset 9, tout être vivant, tout être, c'est pas plus moi que vous, lui que elle, elle que l'autre, tout être vivant, n'importe qui, si quelqu'un a soif, verset 9, tout être vivant qui se meut, il y a quand même dans nos vies, frères et sœurs, il faut être honnête, des moments où on est plus en train de se mouvoir qu'en train de vivre vraiment. Il y a le fait de se mouvoir, c'est-à-dire d'être vivant physiquement, mais il y a aussi le fait de vivre la vie de Dieu. Tout être qui se meut, tout être vivant physiquement qui se meut, vivra partout où le torrent coulera. Tout vivra, dit encore le verset 9, tout vivra partout où parviendra le torrent. J'ai besoin de laisser couler le fleuve dans chaque partie de ma vie, dans tous les domaines de mon existence. Je peux pas compartimenter le fleuve. Je peux pas le canaliser. Je peux pas le prendre quand ça m'arrange. Je peux pas l'utiliser pour les points qui m'arrangent. Ézéchiel, il s'est retrouvé dans le fleuve. Et le fleuve, il allait par là. Donc, Ézéchiel a été par là. Et il ne pouvait pas, et je ne peux pas, contrôler le fleuve, le scléroser, le canaliser. Je peux pas le compartimenter. Il doit avoir accès à tous les domaines de ma vie. Et toutes les parties de ma vie qui vont être stériles, qui sont mortes, qui sont improductives, qui sont desséchées, le fleuve va donner une nouvelle dimension. Quelles sont les parties de ta vie qui sont desséchées aujourd'hui? Le fleuve a la puissance de vie. Le fleuve peut ressusciter tout ce qu'il y a à ressusciter en toi. Il redonne la vie. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Tout, dit la fin du verset, tout vivra partout où parviendra le courant. Il est efficace en tout et partout. Il y a aussi cet aspect de vie qui est dans le verset 12. Là, c'est pas seulement la vie. Là, le verset 12, il me parle de longévité. Regardez bien avec moi, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas. Dans la symbolique, si on considère le psaume premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui médite la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre. L'arbre, c'est vous, c'est moi. Dans la symbolique, l'arbre, c'est vous, c'est moi. Il est comme un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Ah ! Les racines développées dans l'eau, les racines développées dans le fleuve. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit pas. Psaume 1er, verset 3, vous relirez. « Dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. » Ici, au verset 12, Ézéchiel 47, « Leur feuillage ne se flétrira pas. » Le Seigneur me montre ici que ça, c'est le secret de la longévité. On se dessèche, on se fatigue, on se flétrit, pardonnez-moi, pas seulement physiquement, ça, on peut pas y échapper, c'est la vie, on y passe tous. Mais on peut ne pas se flétrir, ne pas s'étioler, ne pas s'amoindrir, ne pas mourir spirituellement à partir du moment où l'arbre que nous sommes est planté, ses racines déployées dans le torrent. Leur feuillage ne se flétrira pas. Le Seigneur, en termes de qualité de vie, me dit que non seulement le fleuve, c'est la vie, toute façon, on le sait, l'eau, c'est la vie. Et puis, il y a ce secret de longévité, mais il y a aussi le secret de l'efficacité. Il y a du fruit. Les arbres, c'est vous, c'est moi, leur feuillage ne se flétrit pas, c'est-à-dire que malgré le temps, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les saisons, malgré les problèmes, vous ne vous flétrissez pas, mais vous êtes constamment renouvelé par la sève de l'Esprit qui monte en vous. Et il y a aussi miracle, parce que tout est miraculeux dans ces textes, tout est miraculeux dans la vie de l'Esprit, il y a aussi du fruit. Alors là, il y a quand même quelque chose qui m'a étonné véritablement. Il nous est dit quand même, au verset 12 toujours, « Leur feuillage ne se flétrira pas, leurs fruits n'auront pas de fin, ils mûriront tous les mois. » Bon, quels sont ceux qui ont un jardin ici, avec des arbres fruitiers? Vous connaissez des arbres qui font des fruits tous les mois, vous? Ça n'existe pas. Dans le meilleur des cas, si le temps n'est pas trop mauvais, votre arbre, il va vous faire des fruits en sa saison. Mais vraiment en sa saison. Faut pas qu'il y ait eu un coup de chaleur en février et un coup de gel, et puis ensuite les seins de glace au mois d'avril, etc. Parce que sinon, vos fruits sont perdus, l'arbre ne donnera rien. On est reparti pour un an. S'il donne des fruits une fois l'an, c'est déjà bien. Ici, le texte dit « Leur feuillage ne se flétrira pas, leurs fruits n'auront pas de fin. » Ils vont porter du fruit sans arrêt, ça c'est nous, porter du fruit. Ils mûriront tous les mois, ce qui me parle encore de miracle, une production, une abondance, un renouvellement. Et puis ces fruits, ben, vous savez très bien que les fruits, ils ne sont pas pour moi. L'arbre c'est moi, je porte du fruit. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la miséricorde, tout le fruit de l'Esprit. Et une fois que tout ça, je le porte, ça sert aux autres. Les autres sont nourris, ils sont alimentés. Et c'est seulement lorsque moi, je suis plongé dans le fleuve de l'Esprit, lorsque j'étends mes racines en lui, que l'arbre que je suis ne va pas se flétrir, mais que bien au contraire, il va pouvoir durer, c'est la longévité, et en plus, apporter une nourriture à tous ceux qui l'entourent. Leurs fruits, verset 12, serviront de nourriture et leurs feuilles serviront de remède. Cette source qui est installée en moi, elle doit jaillir sur les autres. Elle constitue mon bien-être, mais elle est aussi pour les autres. L'arbre, c'est moi, toujours vigoureux, toujours en bonne santé, toujours épanoui, jamais flétri. Et les fruits sont pour ceux qui m'entourent. Les fruits nourrissent les autres. Et puis, les feuilles servent, comme dit le texte, servent de remède. Une caractéristique des gens qui vivent plongés dans le fleuve, plongés dans la vie du Saint-Esprit, c'est qu'il y a cette vie, il y a cette longévité, il y a ces fruits, il y a des feuilles qui peuvent servir de remède, et on viendra chercher auprès de toi, on viendra chercher du remède. Parce que tu auras des ressources différentes. On viendra chercher auprès de toi des paroles. On viendra chercher conseil. On viendra chercher une parole de sagesse. On viendra chercher auprès de toi de la consolation, des solutions, des ressources. On viendra chercher auprès de toi de l'amour qu'on n'a pas trouvé ailleurs. On viendra chercher la joie. On viendra chercher la paix. On viendra chercher de la fraîcheur, du repos, de l'onction, de l'inspiration. Bref, une vie bénie, ça c'est pour moi. Et une vie en bénédiction, ça c'est pour les autres. Et ça, c'est tout ce que l'Esprit de Dieu veut faire aussi. Je termine avec ce point. Une fois qu'on a parlé d'eau, une fois qu'on a parlé de vie, une fois qu'on a parlé de longévité, une fois qu'on a parlé de fruits miraculeux qui durent, qui est constamment renouvelé, on parle aussi dans ce texte, on parle d'efficacité. Le Seigneur, de façon imagée ici, symbolique, me dit que le fleuve de l'Esprit fera toujours des choses efficaces. Il fera par sa puissance des choses que moi je ne peux pas faire. Il produira des choses que moi je ne peux pas produire. Il y aura, dit le verset 9, il y aura une grande quantité de poissons. l'arbre, c'est vous. Les racines, vous les plongez dans le fleuve. Les fruits, ils sortent pour les autres. Ils sont renouvelés constamment, en permanence. Et il y aura une grande quantité de poissons. Et les poissons, ben c'est tous ceux qui doivent encore être sauvés. Et comment ils parviendront au salut? Comment l'Église va pouvoir attirer, sans faire de démagogie, sans faire de propagande, sans faire de compromis, sans faire de bis-bis avec les religions, les fausses doctrines? Comment l'Église, elle va faire pour que des poissons soient attirés et soient pris dans les filets du Seigneur, dans le salut pour l'éternité? Comment elle va faire l'Église? Ben, elle va faire avec le fleuve de l'Esprit. Parce que c'est là que le Seigneur dit qu'une fois que l'Église aura retrouvé la vie du Saint-Esprit, chaque arbre sur ses bords, il y aura aussi des pêcheurs. Et qu'est-ce qu'ils font les pêcheurs? Ils étendent les filets et il y aura une grande quantité de poissons. Ça me rappelle ce que Pierre a vécu, je vous en parlais la semaine dernière, ce que Pierre a vécu dans Luc chapitre 5, une grande quantité de poissons. Ce qu'il a vécu en Jean chapitre 21, une grande quantité de poissons. Et cet appel extraordinaire qu'est l'appel de Pierre, mais aussi le nôtre, chacun individuellement, tant sur le plan personnel que collectif, d'être des pêcheurs d'hommes. Ben pour les pêcheurs d'hommes que nous sommes, je pense que c'est une excellente nouvelle quand le Seigneur nous dit « Le fleuve de l'Esprit va faire en sorte que lorsque tu vas jeter des filets, il va y avoir une grande quantité de poissons. » Parce que le fleuve, c'est lui qui amène les poissons. C'est pas ma prédication. C'est pas votre témoignage, c'est par votre témoignage, c'est par votre prédication. Mais qu'est-ce que je suis moi? Rien. Qu'est-ce que vous êtes vous? Rien. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui attire. C'est le fleuve, c'est le courant de l'Esprit qui va aussi entraîner une grande quantité de poissons, comme à la Pentecôte. Une grande, quand le fleuve de l'Esprit a été déversé à la Pentecôte, il y a une grande quantité de poissons et ça a été aussi une pêche miraculeuse. Le Saint-Esprit me montre aussi ce texte, obtiendra toujours des résultats que l'Église seule ne peut pas obtenir. Il y aura dans ma vie des résultats que le Saint-Esprit seul produira. Il y aura dans l'Église des résultats, il y aura une pêche miraculeuse. Et si vous regardez bien tout cet aspect de la vie des disciples, avant la Pentecôte, avant qu'ils ne soient immergés dans le fleuve, ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont gentils, ils aiment Jésus, ils chantent des cantiques dans la chambre haute avec lui, ils chantent les psaumes, ils sont avec Jésus, ils sont là, ils sont beaux, ils sont mignons, ils aiment chanter. Bon, quand la réunion est finie, ils se disputent beaucoup, ok, mais ils aiment Jésus et ils sont sincères. Et quand Jésus dit quelque chose, ils le font, ils obéissent, ce sont des bons disciples, ce sont des bons chrétiens. Le problème, c'est que avant la Pentecôte, regardez bien les évangiles, ils ne vivent absolument rien. De temps en temps, ils ont un flash de révélation. Oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, à la transfiguration. Ah, à qui d'autre irions-nous? Tes paroles nous font tellement de bien, Seigneur. On va pas s'en aller, on reste avec toi, on t'aime, on est sincère. Tes paroles, c'est la vie. Mais quand vous regardez bien, ils ont juste compris qui est Jésus, mais ils sont toujours spectateurs. Jésus fait un miracle, Jésus enseigne, Jésus fait un autre miracle, Jésus enseigne, Jésus fait un autre miracle, et au bout de 3 ans et demi, ils sont encore spectateurs du grand spectacle évangélique que Jésus leur donne quotidiennement. Ils disent « Oh, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ah, mais quel est donc celui-ci qui fait voir les aveugles? Mais quel est donc celui-ci qui ressuscite les morts? Mais quel est donc... Ah, c'est super, tu veux pas rester toujours avec nous, Seigneur? Non, je m'en vais maintenant, c'est fini. Fin du spectacle, au bout de 3 ans et demi, le spectacle évangélique, il est fini, on tire le rideau. Maintenant, c'est votre tour. Et vous allez pouvoir faire les œuvres que j'ai faites par la puissance du fleuve que vous allez laisser couler en vous. Et à partir de la Pentecôte, quand ils sont immergés dans le fleuve, ben, ils sont plus spectateurs. Mais les miracles passent par eux. L'onction, elle passe par eux. La bénédiction, elle passe par eux. Les fruits, ils passent par eux. Les poissons, ils sont amenés par le fleuve de l'Esprit. Mais c'est eux qui font la pêche le jour de la Pentecôte et tous les jours suivants. Avant la Pentecôte, les disciples, ils ne vivent rien. Ils ne produisent rien, même pas pour eux-mêmes. ils n'accomplissent rien, ils sont seulement spectateurs. Et l'efficacité des disciples commence le jour où le fleuve coule en abondance à la Pentecôte, le jour où ils ont obéi, le jour où Jésus leur a dit « Maintenant, ça suffit. Maintenant, vous allez à la chambre haute et vous ne bougez pas tant que... » Les disciples ont obéi, ils se sont montrés disposés, ils se sont montrés disponibles, ils ont simplement obéi au Seigneur dans un acte de foi et puis ils ont été plongés, immergés dans le fleuve et ils sont devenus les hommes efficaces, actifs, productifs, les pêcheurs d'hommes que nous connaissons. Et ça, frères et sœurs, c'est notre appel, c'est notre raison d'être sur la terre. Pourquoi le Seigneur n'a pas encore enlevé son église? Parce qu'il y a encore une grande quantité de poissons qui doivent être pris dans les filets du salut. Il y aura des poissons de diverses espèces. Il y aura toutes sortes de poissons. Nous, des fois, on est un petit peu... Ah non, non, pas des gens comme ça, non. Allez, ouf, non, lui, non, elle, non, c'est pas possible, lui, non. Ah, à cette personne-là, oh, ben, elle est gentille, cette personne, hein. Vous avez jamais dit ça? Elle est gentille, cette personne. Il lui manque plus que le Seigneur. Vous savez, comme s'il lui manquait la petite option, le petit plus, quoi. On aime bien les gens qui sont tout faits, tout parfaits, tout cadrés. Il y aura des poissons de toutes sortes, de toute espèce, de tout arrière-plan. Il y aura des gens de toute confession, de toute langue, de toute race, de toute nature, de toute culture. Il y aura des gens pour constituer ce qu'est enfin l'Église, un peuple acquis. Des gens de toute race, de toute couleur, de toute langue, de toute culture. Un peuple pour la gloire de Dieu. Et peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être des fois dans votre famille, j'ai à cœur de dire ça, parfois dans votre famille, ou parfois dans votre lieu de travail, ou parfois dans vos connaissances, dans votre voisinage, vous avez dit, ah ben dis donc, celui-là, c'est une sacrée espèce, hein. Ah, celui-là, il est dur. Hein. Ah, celle-là, c'est vraiment... Ah, alors là, celle-là, ça va être compliqué. Ah, celle-là, ah, cette sorte-là, cette sorte de gens, moi, je leur parle pas. Jésus dit que au fleuve de l'Esprit, rien n'est impossible. Et que si le fleuve, il coule en moi, de moi, et que moi, je suis plongé dedans, il y aura une grande quantité de poissons. Mais pas ceux que toi t'as choisis. Des poissons de toutes sortes, des poissons de toute espèce, mais le fleuve va apporter aussi ses résultats. Le fleuve, il me porte. Le fleuve me rafraîchit. Le fleuve me conduit. Le fleuve me donne une dimension de vie telle que j'aurais jamais pu en concevoir si la parole me l'avait pas expliqué. Le fleuve me parle de longévité et le fleuve me parle de résultats. Il me parle d'efficacité, il me parle de multiplication. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Amen.